Réplique, vivons-nous sous l'empire du politiquement correct, avec Mathieu Bock-Côté et Laurent Geoffrin. À la fin de son dernier livre, L'Empire du politiquement correct, Mathieu Bock-Côté fait l'éloge du conflit civilisé et il cite Alfred Sauvy. Le but de la démocratie n'est pas de s'entendre, mais de savoir se diviser. Quand pleuvent les anathèmes, les excommunications, listes noires et les appels à la censure, on peut en effet légitimement se demander si dans notre démocratie, ce savoir n'est pas en train de se perdre. Avec réplique, je m'assigne pour objectif de le maintenir vivant, coûte que coûte. Et je compte aujourd'hui sur Mathieu Bock-Côté et Laurent Geoffrin, le directeur de Libération, pour, jusque dans l'expression de leurs divergences, faire de la cause de la vérité la cause commune à l'un et à l'autre, comme dit Montaigne, dans l'un des plus beaux chapitres des Essais. Mais pour bien parler, il importe de savoir de quoi exactement on parle. L'expression « politiquement correcte » est mise ces temps-ci à tant de sauces qu'on en oublie le goût et que son sens se brouille. Quelle définition précise lui donnez-vous, Mathieu Bock-Côté ?
Alors, vous avez tout à fait raison de noter que cette formule, au fil des ans, s'est affranchie de toute définition commune, disons ça ainsi. Donc, le politiquement correct devenait presque un slogan pour désigner ce qui nous était désagréable dans l'espace public. Or, je propose dans ce livre de retracer, depuis l'apparition de ce concept dans les années 80 sur les campus américains, c'est-à-dire cette morale issu des, ou à tout le moins ce nouveau discours, ce nouvel ordre du discours issu des Radical Sixties, qui était fondé essentiellement sur la disqualification de l'héritage occidental ou du majoritaire et la survalorisation systématique de toutes les minorités victimaires. Donc ça, c'est le point de départ du politiquement correct. J'essaie de suivre son institutionnalisation jusqu'à aujourd'hui dans l'espace public des sociétés occidentales. Et la définition que j'en propose est la suivante. Le politiquement correct est ce dispositif inhibiteur qui pousse à l'exclusion, à la pathologisation, à la psychiatrisation, à la diabolisation de ceux qui expriment un désaccord avec ce que j'appelle le régime diversitaire. Donc globalement, c'est cette manière de configurer le débat public pour faire en sorte que ceux qui remettent en question l'héritage des Radical Sixties, mais plus largement l'idéologie diversitaire, sont présentés non pas comme des contradicteurs légitimes dont il faudrait, avec qui il faudrait débattre sur une base, on pourrait dire, rationnelle, mais comme des figures à ce point toxiques qu'il faut les tenir le plus loin possible du débat public par de nombreuses méthodes qui relèvent globalement de la disqualification morale.
Qu'est-ce que vous appelez exactement régime diversitaire, Mathieu Bock-Côté?
Alors, c'est cette idée comme quoi il est nécessaire aujourd'hui de déconstruire toute norme commune inscrite sous le signe de la continuité historique occidentale pour qu'émergent justement des minorités qui auraient été refoulées au fil du temps, qui auraient été refoulées dans l'histoire et qui se présentent à nous aujourd'hui justement sous le signe de, au nom de la domination qu'elles auraient subie, elles réclament une forme de privilège moral dans la définition de la chose publique. Et elles se présentent souvent comme victimes d'une phobie particulière. Et vous noterez que dans la logique du politiquement correct, donc de cette psychiatrisation du désaccord, eh bien, il est bien de se présenter comme victime d'une phobie. Plus largement, dans le régime diversitaire, il y a cette idée d'un éclatement de toutes les normes communes. Nous n'aurions plus en commun, finalement, que des droits formels, et que toute norme commune est pensée comme une forme de tyrannie de la majorité. Toute norme substantielle, anthropologique, identitaire, est pensée comme fondamentalement illégitime dans la définition de la cité, donc une forme d'éclatement infini des subjectivités, un éclatement infini de l'identité. Ça nous donne des sociétés qui se pensent, de ce point de vue, sous le signe soit du multiculturalisme ou de l'éclatement de toutes les identités possibles.
Laurent Geoffrin.
Alors moi j'ai deux définitions. La première, qui me paraît légitime et juste, c'est évidemment la proscription des propos racistes, des propos discriminatoires, des appels à la haine. D'ailleurs, c'est prévu dans la loi. Et si on entend par politiquement correct le fait de combattre ce discours, il me paraît très positif. Bon. Pour le reste, s'il s'agit d'un conformisme, d'une pensée automatique, d'une manière de pensée pavlovienne, je la condamne. Je ne la pratique pas, enfin, je m'efforce de ne pas la pratiquer. Et je la critique, je ne suis pas d'accord avec ça. Et notamment avec une grande partie des courants universitaires, par exemple décoloniaux, ou qui sont obsédés par la victimisation des minorités. Moi, je ne suis pas de cette école-là du tout. Mais là où je trouve que la thèse que vous défendez, et que beaucoup de gens défendent, selon laquelle ce politiquement correct exerce une sorte de domination sans partage sur les esprits, ça, je trouve ça ridicule. Parce que ce qui caractérise le paysage politique et intellectuel depuis 20 ans en France, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est la montée en puissance d'idées conservatrices et d'idées parfois réactionnaires, parfois nationales populistes, et qui occupent sur la place publique un espace croissant et quasiment majoritaire maintenant.
Il y a, c'est une thèse qui circulait beaucoup à partir de l'automne 2015. Moi, ça m'avait marqué cette idée que nous serions témoins d'une hégémonie conservatrice ou réactionnaire dans l'espace public.
Je n'ai pas dit hégémonie.
Mais à tout le moins, vous dites dominant, vous êtes des propos qui sont très présents.
Montée en puissance.
Moi, ce qui m'a beaucoup frappé à travers ça, et je le résumais d'une formule, c'est que je dirais que la gauche était si longtemps dominante qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée, et la droite, entre guillemets, était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendu pour se croire dominante. Alors, donc, double illusion dans l'espace public. Si, évidemment, nous sommes dans des sociétés libérales, donc il y a un pluralisme de fait. Mais vous noterez que les idées conservatrices, lorsqu'elles émergent dans l'espace public, sont plus souvent qu'autrement disqualifiées. C'est-à-dire, par exemple, on va demander régulièrement est-ce que nous n'invitons pas exagérément tel ou tel conservateur ou tel intellectuel ou tel essayiste dans l'espace public? Est-ce que sa place n'est pas exagérée? J'ai l'impression qu'un débat équilibré, souvent, c'est 6 progressistes d'un côté, un conservateur de l'autre, et on a l'impression que le débat est équilibré.
Est-ce que je peux répondre factuellement?
Juste un instant.
Allez-y.
Et plus largement, que des idées conservatrices émergent n'est pas faux, qu'elles soient populaires dans la population n'est pas faux, mais qu'elles soient globalement médiatiquement disqualifiées et qu'elles soient présentées plus généralement sous le signe de la phobie. Je vais vous donner un exemple tout simplement. L'extension de la définition du mot racisme dans l'espace public. Vous dites qu'il faut combattre le racisme. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais le racisme tel qu'on le définit de plus en plus dans nos sociétés, regardez ça, n'est pas simplement aux États-Unis, mais en France, on le voit aussi. La laïcité, comme une forme d'universalisme, par exemple, qui ne serait pas respectueuse de la diversité, est pensée comme une forme de racisme universel. Je suis pas en train de vous critiquer, vous.
Oui.
Est pensée comme une forme de racisme universaliste. Oui. Ou encore, cette idée comme quoi les cultures cohabitent difficilement et le refus, finalement, de se plier au multiculturalisme va être présenté comme une forme de racisme différentialiste. Donc, devant tout cela, l'extension de certains termes diffamants, des termes qui sont là pour disqualifier, me semble relever de cette logique du politiquement correct.
Laurent Geoffrin, et puis je me donne la parole après.
Mais bien sûr.
Je réponds factuellement, immédiatement. L'accueil qui a été fait à votre bouquin montre que la thèse du livre est fausse. Parce que vous êtes successivement passé dans la plupart des émissions mainstream qu'on connaît. Vous étiez chez Le Quotidien,
vous étiez à la matinale. Vous avez vu l'accueil qui a été fait, si je peux me permettre.
Vous avez... Oui, c'est pas parce qu'on vous critique
qu'on
vous empêche de parler.
Non, je parle pas
d'une critique. Vous êtes passé au matinal, Europe 1... TF1, partout, vous êtes passé partout. Et évidemment, vous avez eu des comptes rendus, souvent élogieux, dans la presse qui pensent comme vous, c'est-à-dire le Figaro Magazine, tout ça. Donc présenter ces idées-là comme étant des idées marginalisées, disqualifiées, psychiatrisées, c'est une blague. Et quand il m'est arrivé souvent de passer à la radio, à la télévision, pour faire des débats, mais avec qui? Natacha Polony, Éric Zemmour, Alexandre Devecchio, il y a là toute une tripotée là qui sont tous à peu près de la même école et qui ont Alain Finkielkraut lui-même d'ailleurs. Alors ils ont des nuances entre eux, je fais pas d'amalgame, mais simplement ils sont nombreux. Ils sont pas hégémoniques, heureusement. Autrement on ne serait plus en démocratie. Mais ils participent d'un pluralisme évident. Et je termine ce discours sur le politiquement correct, sur la dictature supposée du politiquement correct, consiste à utiliser exactement la même arme que vous dénoncez. C'est-à-dire à se victimiser.
Non. Alors, je vais intervenir et témoigner, et notamment de ce qui a pu être mon traitement dans Libération. Il y a deux ans, je crois, est paru c'était le dossier principal, une série d'interviews d'intellectuels qui luttaient contre la réaction. La réaction.
Ah oui.
Et la réaction Et qui étaient les réactionnaires visés? Parce que dans cette liste-là, vous dites c'est dominant, mais il y a toujours les mêmes noms.
J'ai pas dit que c'est dominant, j'ai dit que c'était...
Non, vous dites c'est, ça monte en place, puissance, voilà. C'est toujours les mêmes noms. Et en l'occurrence, c'est le tandem, et franchement c'est pas de mon fait, Zemmour-Finkielkraut, oui. Malgré tout ce qui nous oppose. Et alors, que lisait-on de la part de Nicolas Hoffenstadt? Eh bien, que nous avions, ou que j'avais peut-être... des intentions putrides et des pensées abjectes. Quant à François Cusset, il parlait d'hystérie, de croisée en pré-retraite. Et vous, Laurent Geoffrin, ça je cite Jacques Julliard. C'est très intéressant, Jacques Julliard dans son dernier livre « Allons-nous sortir de l'histoire ?» Et moi je me demande toujours pourquoi Jacques Julliard, qui est profondément un homme de gauche, trouve asile politique aujourd'hui au Figaro. Pourquoi sa grande chronique n'est pas publiée dans Le Monde?
Il n'était pas pour chasser. Hein,
oui. Et dans Libération. Oui, mais enfin, c'est pas non, Le Monde de Libération qui vont le chercher. Dans son éditorial de Libération du 28-29 avril 2018, Laurent Geoffrin a tenu à souligner que messieurs Finkielkraut et Zemmour n'ont pas la responsabilité directe, le mot figure textuellement, dans un éventuel retour de la violence fasciste. C'est très généreux de sa part. Merci pour eux. Tout au plus, contribue-t-il à créer une atmosphère, ajoute-t-il, favorable à cette résurgence. À la place des intéressés, je me sentirais tenu de renvoyer l'ascenseur à Laurent Geoffrin en précisant avec la plus grande netteté qu'il n'a de son côté aucune responsabilité directe dans le terrorisme islamiste. Bon, c'est assez drôle, mais c'est
oui,
vrai.
Mais c'est de la polémique, ça. Attendez.
Oui, mais non,
faut pas confondre. Faut pas confondre.
Laurent Geoffrin et ensuite Mathieu Bocoté.
Faut pas confondre l'expression polémique. À condition que ce ne soit pas unilatéral, parce que quand je lis les journaux auxquels vous collaborez, par exemple, je ne vois pas qu'ils soient extrêmement, comment dire, dans la subtilité absolue, dans la nuance et dans l'élégance permanente. Et même dans votre livre, je ne suis pas cité dans le livre, donc mais par contre, quand vous comparez, franchement, quand vous comparez la France d'aujourd'hui, en fait, à l'Union soviétique...
Non, je dis le contraire.
Sinon, excusez-moi, les trois auteurs que vous citez à l'appui de votre thèse sont des auteurs qui sont Koestler, Orwell et Miloche. Mm-hmm. Or, ces trois auteurs qui ont écrit, non pas sur la France, ou très peu, mais ils ont écrit sur quoi? Sur le totalitarisme.
Oui.
Et donc, et vous utilisez leurs phrases pour désigner la situation française. Donc, c'est une comparaison, ça. Et c'est une comparaison que vous utilisez aussi. Quand vous dites diversitaire, diversitaire, c'est un mot qui n'existe pas, en fait. C'est un mot qui veut dire autre chose. Et vous l'avez annexé, vous avez le droit. Hein. C'est un néologisme, au fond, d'annexion. Pourquoi? Parce que ça rime avec totalitaire, c'est ça le but?
Non, pas du tout.
Évidemment.
Non. Vous prêtez l'attention, pardonnez-moi.
Ce que vous décrivez sur la psychiatrisation, on a l'impression qu'on enferme les Finkielkraut et les autres dans un asile.
Je peux répondre?
C'est ridicule.
Bon, alors...
Je termine. Et je trouve ça insultant, franchement insultant. Un peu pour nous, parce qu'on est des bons démocrates, on se dit, bon, on est quand même dans un pays pluraliste, et M. Bocoté a le droit de s'exprimer, fort heureusement, s'il n'avait pas le droit, on protesterait. Et deuxièmement, c'est insultant pour les vrais dissidents. Vous vous présentez comme un dissident du régime diversitaire, il y a quand même une connotation là-dedans. Les vrais dissidents sont ceux qui ont risqué leur vie pour lutter contre le stalinisme. Et vous, fort heureusement, vous êtes un intellectuel de droite, vous êtes bien accueilli, vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil, et vous dites, je suis un dissident opprimé. Bon, c'est ridicule.
Est-ce que je peux répondre?
Alors, bon, Mathieu Bocoté.
Premièrement, si vous entendez, parce que tous les mots qui finissent en R vous font penser à totalitaire, c'est votre problème, c'est ça, pas le mien. Quand je dis diversitaire, c'est qu'au-delà de la simple question du multiculturalisme, l'application intégrale du principe de diversité à toute forme d'identité, de forme collective,
c'est pas mon avis.
Le mot diversitaire.
C'est pas l'avis de la gauche française.
Laissez-moi finir. Alain Renaud, soit dit en passant, qui n'est pas ce que j'en sais de mon camp, l'utilise de manière tout à fait positive, ce mot diversitaire, dans ses ouvrages. Donc, manifestement, je ne suis pas le seul à utiliser ce terme. Soyez-en conscients. Par ailleurs, je dis dans le livre, je le dis explicitement, il ne faut pas croire que nous sommes dans une situation semblable à celle des pays totalitaires, évidemment. Mais ce qui me semble... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment néanmoins, même si nous sommes dans des sociétés libérales, une certaine tentation totalitaire tend à ressurgir aujourd'hui à travers, justement, cette espèce de survalorisation d'une diversité qui, par ailleurs, ne tolère pas d'être remise en question. Et au-delà de ça, plus largement, d'un progressisme qui croit avoir le monopole du vrai, du bien et du juste. Donc, il y a une différence. Et je dis, ces auteurs nous permettent étonnamment de penser des traits qui caractérisent notre époque, bien que nous soyons en démocratie libérale, évidemment. Ensuite, j'aimerais ajouter un point, et ça, j'aurais dû le dire plus tôt. Sur la question du politiquement correct, nous sommes aujourd'hui, je crois, dans une étape particulière dans l'histoire du politiquement correct, et c'est celui de sa radicalisation. C'est-à-dire que contesté par les mouvements populistes, des critiques conservatrices et toute une série de phénomènes sociaux qu'il vaudrait la peine d'étudier, eh bien, devant cela, il a la tentation de la radicalisation. Et je vais vous donner un exemple tout simple qui nous vient du mois de décembre dernier, le fameux pacte de Marrakech, dont on n'avait pas le droit de dire autre chose qu'il n'était pas contraignant. Dans le pacte de Marrakech, il y avait cet appel explicite à ne plus financer publiquement les médias qui auraient des orientations racistes, xénophobes ou discriminatoires. Alors vous me direz très bien, sauf qu'il faut voir la définition qui nous est donnée de tout cela. Et on comprend que globalement, si on n'est pas favorable au multiculturalisme, à l'immigration massive et à la dissolution des frontières, on relève du racisme, de la xénophobie, de la discrimination. En gros, c'est multiculturalisme ou barbarie. Alors devant cela, et la multiplication des phobies dans le langage public, vous noterez qu'elles se multiplient ces phobies aujourd'hui. Les systèmes discriminatoires supposés qu'il ne faudrait combattre se multiplient dans la sociologie officielle et c'est même repris quelquefois dans le langage de l'État. Alors devant tout cela, je ne vois pas en quoi je fantasmerais sur des périls qui n'existent pas. Je dis que dans notre société libérale, une vieille tentation se recompose aujourd'hui et elle contribue à appauvrir terriblement le débat public en transformant l'adversaire légitime en ennemi, sinon de l'humanité, à tout le moins en ennemi public.
Alors, Laurent Geoffrin.
Vous désignez là des gens qui sont extrêmement minoritaires, en fait. Vous désignez là des courants qui sont dans l'université française, c'est vrai, dans certains secteurs de la sociologie, mais pas dans l'histoire, oui, un peu, pas dans la géographie, pas dans les mathématiques. Vraiment, c'est pas du tout l'université en général. Ce sont des courants très particuliers, un peu sectaires, à mon avis, qui se trompent de plus. Et qui effectivement sont assez bruyants et qui font des tribunes, y compris dans Libération, mais il y a des tribunes contraires aussi. Et donc vous faites de la métonymie, c'est-à-dire vous prenez la partie pour le tout. Quoi. Vous dites voilà, comme il y a ces gens-là qui sont très agressifs, c'est vrai, et qui sont très intolérants, ce qui est exact également, et qui ont peut-être une tentation totalitaire, c'est possible. Seulement ils sont tout petits numériquement, tout petits. Alors ils sont tout petits, mais ils font du bruit, d'accord. Mais enfin ils sont tout petits. Deuxièmement, le pacte de Marrakech. La polémique n'est pas née du fait qu'il fallait repousser ou accepter d'un seul coup ce pacte. La polémique est née de déclarations d'hommes politiques qui ont dit « on va nous obliger à accueillir tous les immigrés de la planète ». Or, ça n'est pas dans le pacte. Donc c'était une fake news, comme on dit aujourd'hui. C'était un mensonge. Et le pacte, effectivement, c'est écrit noir sur blanc, je l'ai lu intégralement. Le pacte précise bien qu'il s'agit d'un catalogue d'intentions signé par exemple d'État, mais qui n'a aucune valeur juridique contraignante. À partir de là, c'est parce que je vous accuse pas là. J'accuse Marine Le Pen et puis je ne sais quel homme politique de droite d'avoir agité un épouvantail qui n'existe pas.
Oui, mais Laurent Geoffrin.
Mais si c'est pas contraignant, c'est pas contraignant.
Oui, mais si c'est pas contraignant, on peut pas le définir simplement par le fait qu'il est non contraignant. On peut simplement s'interroger sur ses intentions et son contenu. Bah, on peut pas dire ce pacte a pour définition d'être non contraignant. Ça n'a aucun sens. Il a un certain nombre d'intentions. Il a un contenu qu'on peut discuter. Vous êtes
mais on n'est pas obligé de les appliquer.
Mais d'accord, mais quand
on les applique pas d'ailleurs.
Mais Laurent Geoffrin, quand des États,
par exemple,
signent...
le fait de ne pas subventionner les journaux.
Oui, mais un instant, mais des États,
personne ne l'applique.
D'accord, mais des États, un instant, mais là vous sauvez, vous êtes normalement plus habile dans vos dérobades.
Quelles dérobades?
Tantôt quand vous parlez sur le climat fasciste. D'accord.
La cause de la vérité doit être la cause commune.
J'y reviens. Quand des États signent explicitement un appel. Un pacte où on dit qu'il faut cesser d'accorder la parole publique, cesser de permettre la construction dans l'espace public d'un propos critique de l'idéologie multiculturelle, ce qui est dans le texte. Là, il faut simplement voir les définitions qui nous sont proposées. Que nos États signent ça, vous nous dites ensuite qu'ils ne mettent pas en application. Très bien, encore, on s'épargne ce mauvais sort. Mais vous ne considérez pas qu'il y a un problème fondamental à ce qu'aujourd'hui, au nom de cette lutte avec la définition de plus en plus étendue des mots comme racisme et xénophobie, on en vienne, dans les faits, à vouloir criminaliser, à tout le moins symboliquement, le conservatisme, l'attachement à la nation, la critique du multiculturalisme. J'ose croire que vous trouvez que c'est inquiétant.
Je suis en désaccord avec cette partie du pacte, bien sûr. Oui.
Mais alors justement.
Je suis évidemment en désaccord. Et je constate d'ailleurs que la France ne l'applique en aucune manière. Parce que s'ils appliquaient ce que vous dites là, alors, c'est les mots exacts, je ne sais plus, mais enfin, en gros, s'ils appliquaient ça, ils commenceraient à supprimer des subventions, un certain nombre d'organes, etc., qui sont politiquement louches. Bon, d'accord, mais ils ne le font pas. Donc, c'est une charte. Il y a beaucoup de chartes de l'ONU comme ça qui sont. La charte 242 prévoit effectivement que les Israéliens et les Palestiniens doivent se partager. Elle n'a jamais été appliquée. Bon, mais... c'est les chartes comme ça internationales, il y en a plein. Elles ont un sens. Je ne dis pas qu'elles ne veulent rien dire ou qu'elles n'ont aucune importance, mais comme elles ne sont pas contraignantes, eh ben elles ne s'appliquent pas. Et alors, en France, on n'applique pas ce genre de choses. Et je termine. Et quant à l'ouverture des frontières, parlons-en précisément. Dans votre bouquin, vous êtes totalement flou là-dessus. Vous avez dit qu'il y a l'immigration massive. Alors, déjà, on pourrait discuter du mot massive, qui est contestable. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Donc il faut fermer les frontières complètement, il faut arrêter complètement l'immigration, ou il faut en accepter une partie, ou il faut la réguler. Toute la gauche, les gens qui veulent supprimer les frontières sur l'immigration, il n'y en a pratiquement pas.
Oui,
Il y a No Borders, qui était une espèce de groupuscule anglais, et puis il y a un certain nombre de militants qui, à mon avis, ne réfléchissent pas beaucoup, et qui se disent, on n'a qu'à faire entrer tout le monde, et tout le monde sait que c'est impossible. Et donc il faut réguler sur une base les réfugiés, enfin bon, il y a tout un arsenal de mesures politiques et techniques, mais alors c'est là, parlons de ça, au lieu de jeter des anathèmes sur on va nous obliger à accueillir toute la misère du monde. Mais ça n'existe pas, ça.
Enfin, il n'y a pas que No Borders, il y a aussi le pape François qui demande...
C'est d'ailleurs curieux que vous n'en parliez pas, du pape François.
Une application élargie...
Pour ce qui est du propagandisme, du régime
diversitaire.
Alors, c'est le principal.
Ah bah oui, il dit que même la religion catholique doit s'habituer à devenir minoritaire en Europe.
Est-ce que vous donnez juste un tout petit exemple?
Oui. Après, vous me laissez la parole.
Je vous la laisse avec grand plaisir. Il y a eu le débat autour de la question de l'immigration illégale. Je donne un exemple qui vient de chez nous, mais je crois qu'il peut s'appliquer ailleurs. Je l'ai entendu d'ailleurs de ce côté-ci de l'Atlantique. On parle de l'immigration illégale et là, on a différentes instances qui nous disent l'immigration illégale n'existe pas. En fait, ce qui existe, ce sont des migrations irrégulières. Et dès lors, si vous utilisez la notion d'immigrants illégaux, vous êtes dans la fake news. Ça, on l'a entendu beaucoup chez nous depuis 2 ans. Et là, donc, c'est assez intéressant de voir comment la notion de fake news est utilisée aujourd'hui, non pas pour désigner quelque chose qui est objectivement faux, mais pour contredire des interprétations concurrentes de la réalité. Comme s'il y avait une forme de réel officiellement certifié. Et si on nomme de manière sévère une réalité qui contredit la logique diversitaire, eh bien là, on est dans la fake news. Je crois qu'on a une autre démonstration ici, un autre fait. Je crois qu'il s'accumule.
Alors, je voudrais vous interroger tous les deux, mais d'abord vous, Laurent Geoffrin, sur ce qui m'apparaît comme l'extension inquiétante du domaine du racisme. Vous dites, il faut combattre le racisme, et là-dessus, pas de, en effet, être intransigeant, pas de compromis. Monsieur. L'extrême gauche antiraciste est beaucoup plus sectaire, beaucoup plus intolérante que l'était l'extrême gauche anticapitaliste. S'il y avait un mai 68 antiraciste, il ne serait pas joyeux, il serait répressif, parce que l'antiracisme, malheureusement, est devenu non plus une morale, mais une idéologie. Je voudrais vous en donner quelques preuves, Laurent Geoffrin. Et ça, c'est cité, hélas, dans le Figaro magazine. Il me semble que ça devrait faire l'objet d'enquêtes dans la grande presse, dans la presse de gauche aussi. Eh bien, donc Judith Ventraux, dans le Figaro magazine, parle de Laurent Bouvet, ce fondateur du Printemps républicain, une association laïque, et Laurent Bouvet est un homme de gauche. Eh bien, il a commenté les blocages des facs et il a dit à l'UNEF, la convergence des luttes est bien entamée. Et pour répondre, eh bien, il y a des étudiants qui sont venus dans une AG et qui ont dit « ta gueule Bouvet » pendant de longues minutes. Et puis, elle cite aussi le cas d'un professeur de Toulouse qui avait fait un exposé à l'Université de l'été de la Manif pour tous sur la question « qu'est-ce que l'homme ?». Ce professeur, Philippe Soile, est un spécialiste incontesté de Hegel, mais son cours d'agrègue lui a été retiré par l'université qui a invoqué des nécessités de maintien de l'ordre public. Il m'est arrivé un petit ennui aussi, Laurent Geoffrin.
Oui, je sais.
Pas grand-chose. Je devais faire une conférence à Sciences Po. Et puis tout d'un coup, on me téléphone, on me dit « ça va être difficile, c'est problématique, parce qu'il y a des gens qui vous attendent, des étudiants, et qui veulent pas que vous la fassiez ». on a tenu bon, on a essayé de les semer par un jeu de cache-cache. Toujours est-il que j'ai fait cette conférence sous bonne garde policière, avec des étudiants qui me disaient « casse-toi connard », etc. Ils n'étaient pas très nombreux, la conférence a eu lieu. C'est un événement minime. Mais, malheureusement, Le Figaro seul l'a relaté. Ni Le Monde, ni Libération. Et je trouve ça un tout petit peu embêtant, non pas pour moi, mais parce que ça révèle un climat, c'est révélateur d'un climat, il y a d'autres symptômes, terribles, absolument terribles, et qui nous vient aussi des États-Unis. Je terminerai avec ce dernier exemple, quand même extraordinairement révélateur. Le doyen de la faculté d'Harvard, la faculté de droit, a été démis de ses fonctions. Pourquoi ? Parce que il fait partie de l'équipe des avocats d'Harvey Weinstein. Des étudiants ont dit que c'était absolument impossible, absolument intolérable, et devant cette fronde étudiante, l'université a cédé. Et ce professeur s'est défendu dans la langue diversitaire d'aujourd'hui. Il n'a pas dit « c'est scandaleux, puisque je suis avocat, il s'agit de droit, etc. » Non, il a dit « je suis noir, et on m'en veut » parce que je suis noir. Il a répondu à l'accusation de sexisme en accusant
les autres de racisme.
En accusant ses détracteurs de racisme. Donc, en quelque sorte, on n'en sort pas. Et c'est un climat détestable dont on peut penser quand même qu'il porte préjudice à la conversation civique, à la vie universitaire. Et je ne vois pas pourquoi seuls les journaux de droite devraient s'en inquiéter. Laurent Geoffrin.
Je suis pas un spécialiste de l'université américaine, mais moi je suis universaliste. Donc je condamne toutes les versions identitaires de la vie en société, de l'idéologie, de la politique. Je suis anti-identitaire. Ce qui se passe aux États-Unis est parfaitement dommageable. Alors il faudrait vérifier, parce qu'évidemment, dans le Figaro Magazine, on a peut-être parfois tendance à exagérer certaines choses. Mais c'est vrai que ce qu'on en lit fait dresser les cheveux sur la tête parfois. Je suis d'accord. Et donc c'est très condamnable. Il y a eu la même chose en France avec la tenue d'une pièce qui s'appelle
Les
suppliantes d'Eschyle, qui était accusée de blackface, comme on dit, c'est-à-dire de caricaturer les Noirs, au fond. Alors que ce n'est pas du tout le cas, et que ce truc-là était ridicule. Ça a suscité la réprobation unanime, pas unanime, très majoritaire, des milieux du théâtre et de beaucoup d'intellectuels. On a publié, y compris dans Libé, journal diversitaire, paraît-il. On a publié deux pages signées par Ariane Mouchkin et personnalité progressiste, autant que je me souvienne, et toute une tripotée d'intellectuels et d'hommes de théâtre pour protester contre cette méthode de censure qui est absolument inadmissible. Et même Éric Fassin, que vous connaissez bien, qui lui, alors pour le coup, est du courant décolonial, etc., a dit « oui, quand même, c'est pas très malin d'avoir interdit une pièce, il est obligé de dire ça ». Ce qui prouve bien qu'en France, la situation n'est pas du tout celle que vous décrivez. La situation en France reste pluraliste. Je termine. Et que les manifestations de sectarisme ou d'intolérance, elles existent. Est-ce qu'elles ont augmenté par rapport à la période historique ? Je n'en suis pas sûr. Moi, je suis ancien élève de Sciences Po. Je me souviens qu'à l'époque, Raymond Aron avait voulu faire une conférence à Sciences Po. Il avait été empêché par des groupes d'extrême-gauche. Et puis, ensuite, un peu plus tard, c'était Gisèle Halimi qui voulait faire une conférence. Il a fallu qu'on fasse un service d'ordre de tous les partis de gauche pour empêcher les fachos de l'Assas. À l'époque, c'était une guéguerre avec l'extrême-droite de l'université de l'Assas, de venir attaquer physiquement Gisèle Halimi. Donc, tout ça est condamnable, mais tout ça n'est pas nouveau. Donc dire qu'aujourd'hui on est sous un régime diversitaire, sous-entendu, sous une hégémonie absolue du progressisme et qu'on ne peut plus s'exprimer, je répète, c'est ridicule.
Bon, permettez-moi de donner quelques exemples. Vous noterez que le livre ne parle pas que de la France, il parle des États-Unis, du Canada, du Québec.
Ça va beaucoup.
Oui, mais là, je ne suis pas très compétent sur la vie au Québec.
Mais j'ose croire que je le suis un peu, vous me le pardonnerez, je vais vous donner quelques exemples.
Oui, mais je demanderai une contre-expertise.
Alors, quelques exemples. Les cas de ce qu'on appelle dans l'université américaine de désinvitation sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire, on a un conférencier, une association, souvent groupusculaire, vous avez raison, mais qui bénéficie de la complaisance des autorités, se manifeste en disant la liberté d'expression, on l'a entendu de plus en plus souvent, c'est une nouvelle théorisation de la liberté d'expression ces groupuscules qui nous disent la liberté d'expression n'est pas celle de tenir des propos offensants, intolérants, capacitistes, sexistes, spécistes, racistes, et faites la liste des ismes et ainsi de suite. Donc, puisque vos propos, pas vos propos, mais les propos du conférencier invité supposé, sont censés nous vexer, nous sommes en droit de perturber sa conférence et nous exprimons par là notre propre liberté d'expression en l'empêchant d'exprimer la sienne. Et c'est une nouvelle et c'est de plus en plus fréquent sur les campus. Je veux dire, c'est une définition qui est normalisée dans les associations étudiantes, cette idée qu'il faut interdire la parole publique à ceux qui tiendraient des propos oppressants.
Un instant. C'est condamnable.
Mais c'est majoritaire dans les campus nord-américains. Je me permets d'ajouter une chose. Mais au Canada et au Québec, de plus en plus.
Je vais vous interrompre, mais aux États-Unis, comme chacun sait, l'empereur du politiquement correct, c'est Donald Trump.
Mais un instant, laissez-moi juste terminer sur ce point.
La parole nuancée et contrainte s'exprime tous les jours par les tweets de Donald Trump.
Si je peux me permettre, je vais juste terminer mon point. Donc, dans l'université, les phénomènes dont on parle ne sont pas marginaux. Ils sont la norme aujourd'hui dans la vie académique nord-américaine. Je me permets de donner un autre exemple qui relève cette fois du monde du théâtre. Au Québec, l'été passé, Robert Lepage, qui est un dramaturge québécois de grande qualité, un homme de gauche parfaitement respectable selon vos critères. Robert Lepage propose de faire la pièce Slave. La pièce Slave, c'est une critique de l'esclavage. Et cela dit, dans la pièce, il y a des chants qui ont d'abord été chantés par des femmes noires il y a un siècle et qui sont reprises par des femmes blanches aujourd'hui. Je précise que ces critères sont complètement débiles, à mon avis. C'est une racialisation des individus, femmes blanches, femmes noires. Je ne sais pas ce que ces termes viennent faire. Mais quoi qu'il en soit, la pièce va être contestée par des groupes racialistes noirs à Montréal. Résultat, la pièce est annulée et les autorités du festival de jazz qui devait l'accueillir, donc pas trois oiseaux égarés ici et là, les autorités culturelles québécoises dans cette situation-là décident de se coucher devant la pression de groupes sectaires, groupusculaires, mais qui ont néanmoins une immense puissance médiatique et qui ont la capacité de créer le scandale. Et de telles autres annulations ensuite, une histoire sur l'histoire autochtone du Canada. Alors, on peut les multiplier, ces situations-là. Donc, vous pouvez me dire que
chaque fois, c'est Canada. Je viens parler du Canada,
Est-ce qu'on va vers ça en France?
Mais je crois que oui. Alors, moi, quand on lit, ça m'a beaucoup frappé, quand on lit sur l'histoire de la réception du politiquement correct en France, notamment dans une revue qui s'appelait Le Messager européen, que vous avez connu, je crois. Dans Le Messager européen, numéro début des années 90, et là, on parle de ce dossier sur le politiquement correct, et on dit, ouh là là, les Américains sont fous, c'est complètement insensé. Heureusement, ça ne nous arrivera jamais de telles choses, c'est tellement américain. La racialisation des appartenances, notre ADN universaliste et républicain fait en sorte que nous ne serons pas contaminés par ça. Et quand on lit François Furet à l'époque, François Furet, qui s'inquiète du phénomène, nous dit tout ça, c'est dangereux, c'est fou, c'est totalitaire, mais c'est américain, ça nous arrivera pas. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui si ce n'est pas aussi avancé qu'en Amérique du Nord? Je crois que ça a progressé significativement en France. Et par ailleurs, ça s'exprime d'autres manières aussi, mais la puissance des idéologies dites décoloniales, cette idée qu'il faut des safe space, cette idée qu'il faut des réunions en non-mixité, ces idées progressent et progressent avec une grande rapidité. La racialisation des individus, le fait qu'on dise de quelqu'un qu'il est noir ou blanc ou asiatique ou j'en sais rien.
On dit racisé maintenant. Oui,
mais voilà, ce vocabulaire-là progresse dans l'espace public aujourd'hui. Et ça s'applique aussi sur d'autres domaines. Si, par exemple, vous contestez, mais ça c'est dans la question des identités sexuelles, si vous vous moquez un peu gentiment de l'idée comme quoi nous avons une forme de fluidité identitaire en tant qu'individu binaire ou non-binaire, et ainsi de suite, vous connaissez ce vocabulaire-là, vous risquez d'être transphobe. Et si vous êtes accusé de transphobie, vous allez avoir une association qui peut vous faire une sale réputation, qui travaille à votre mort sociale, à votre disqualification de votre parole dans l'espace public. De tels phénomènes se multiplient. Évidemment que des tonnes de gens s'y opposent, mais dans les lieux producteurs de savoir, dans les lieux producteurs, on pourrait dire, du discours public légitime, de tels propos sont en progression, me semble-t-il.
Oui, c'est pas du tout pareil. Oui, alors vous avez changé de thèse.
Mais pas du tout.
Si, parce que vous dites on vit sous l'empire du politiquement correct. Là, vous m'expliquez qu'il y a des minorités extrêmement agissantes qui ont beaucoup d'écho et qui tendent...
Qui parviennent à définir la norme
qui
publique.
Qui essayent d'imposer leur norme à l'espace public, mais qui rencontrent, vous venez de le dire, une résistance plutôt majoritaire, y compris à gauche. Moi, je vois bien au sein de mon journal. C'est la même chose. Vous me parlez de Bouvet. Effectivement, il y a des gens dans mon journal qui n'aiment pas Bouvet et qui le trouvent, je ne sais pas quoi, et qui vont sans doute...
Sexiste,
tenir,
raciste.
Sexiste, je ne crois pas, mais éventuellement raciste et encore. Bon, dès que quelqu'un dit ça, on dit, mais non, pas raciste. Il a peut-être tort, mais il n'est pas raciste. Bouvet vient de pondre un bouquin. Qui fait la recension du bouquin? C'est moi. Et qu'est-ce qu'il y a dans la recension? Des éloges. Donc on ne peut pas dire qu'on vit sous l'empire du politiquement correct. Là. C'est un empire fragmenté. C'est un empire, c'est comme la fin de l'empire romain, il est totalement décomposé. Quoi. Et donc encore une fois, je pense que votre rhétorique sur la France, je ne me prononce pas sur l'université américaine, mais sur la France, votre rhétorique tend à vous présenter comme une victime. Vous appliquez au fond la tactique de ces groupes sur l'identité et sur la victimisation qu'eux appliquent à des minorités, vous l'appliquez à la majorité. Non. À la majorité des deux souches, entre guillemets, qui est opprimée par, la montée des minorités. Mais c'est une vision de la société qui est dangereuse d'abord, parce que ça, c'est la guerre civile, ce truc-là, à terme. Et puis deuxièmement, c'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Il y a une grande tolérance et il y a un grand pluralisme en France, y compris à la télévision.
Alors, il y a une grande tolérance, moi je ne me sens pas victime.
Et sur Internet, n'en parlons pas. Alors là, c'est le déchaînement dans tous les sens.
Oui, alors justement, peut-être on pourra dire un mot d'Internet d'ailleurs. Ouais. Parce que vous avez une curieuse indulgence pour les réseaux sociaux dans votre livre, Mathieu Bock-Côté. Et là, vraiment, je ne la partage pas. Vous pensez que c'est une réponse possible au politiquement correct. Bon, mais si vous voulez, moi, je ne suis pas opprimé, je ne suis pas une victime et je ne suis pas non plus un Français de souche. Reste que je suis inquiet.
J'ai mis des guillemets, hein.
Oui, je sais. Mais bon, je ne suis pas un Français d'origine française. Ça, je crois qu'on a le droit de le dire. Reste que je suis inquiet. Et par exemple, vous dites, il y a une grande résistance. Moi, je trouve qu'une des formes, alors là pour le coup, graphique du politiquement correct, c'est l'écriture inclusive.
L'écriture inclusive. Il y a une grande résistance.
Oui, mais enfin, vous êtes obligé dans Libération de publier un texte de soutien aux Gilets jaunes. Nous ne sommes pas dupes, signé par Juliette Binoche, Emmanuel Béart, Édouard Louis, etc.
Où ils mettent des points...
Et c'est en écriture inclusive. Moi, je reçois une déclaration de nous, professeurs.e.s de philosophie, réunis.e.s en journée de formation. Nous tenons à marquer notre opposition aux réformes Blanquer et à l'unanimité des présents .e.s. Je lis ça, j'ai un fou rire catastrophé. Un fou rire catastrophé. Catastrophé pourquoi ? Parce que ces professeurs de philosophie sont des médiateurs de la culture. Ils doivent faire découvrir les grands textes et ils écrivent en morse. C'est vraiment... c'est douloureux et on ne peut qu'en rire. Donc ça progresse malgré tout. Et ça progresse même dans les journaux. Et puis autre chose. Et là, vous dites... L'antiracisme, oui, les comportements stigmatisants doivent être même stigmatisés. Mais jusqu'où ça va ?
Ah ben, oui, mais il y a des limites, comme toujours.
Non,
oui.
Mais Daniel Lindenberg, le rappel à l'ordre, ouais. C'est lui qui a sonné la charge contre les néo-réactionnaires. Hein. Il y avait Manon, le faiseur de listes.
2002. Mais
tout le monde fait des listes, arrêtez avec cette histoire.
Mais vous en faites aussi, vous.
Mais quand on définit un courant politique, ou bien on cite personne, alors on ne sait jamais de qui on parle, ou bien vous dites, dans ce courant, avec des nuances, il y a machin. C'est pas la liste de Schindler, c'est pas la liste de proscription, c'est pas la liste des fusillés, c'est simplement pour se faire comprendre. Non, parce que les bouquins où on dit, certains disent que oui, mais d'autres pourront penser d'aucuns, etc., on ne comprend jamais rien de ce qu'ils disent.
Donc, admettons.
Alain Finkielkraut, c'est pas une insulte de mettre son nom.
Enfin, sauf qu'il s'agit en l'occurrence d'une liste noire. Mais surtout.
Une liste qui consiste à dire, voilà, il y a une montée de la pensée conservatrice.
Un instant. Laurent Geoffrey, quand on entend, par exemple.
Et prenons des exemples.
Mais quand on prend la peine d'ajouter des
films,
on ajoute quelquefois.
J'ai vu la même chose dans Valeurs Actuelles sur la gauche.
Un instant. Moi, je lis, par exemple, très souvent, et pas seulement dans Libération, je le lis ailleurs, je suis pas occupé à attaquer Libération, les idées nauséabondes. Alors, moi, ça me fascine, cette formule-là. J'appelle ça penser du nez.
Vous écrivez dans votre bouquin que nous participons de la dissolution de la France.
Relisez votre texte. Si je peux me permettre, il y a une différence entre ce qu'on pourrait appeler la polémique honnête, disons ça comme ça, et quand on laisse croire, et lorsqu'on laisse croire qu'un climat fasciste s'installe peu à peu dans un pays, vous êtes conscient, vous êtes un homme cultivé, que la fascisation de l'adversaire, même à demi-mot, ça consiste à l'exclure radicalement du champ de la respectabilité démocratique.
Et depuis, moi, j'ai tendance... Ça dépend de qui on parle.
Quand on parle, par exemple, de certains essais...
Alain Soral, oui.
Non, mais on ne parle pas de lui en ce moment, bien évidemment.
Mais moi, je parle de ces gens-là. Moi, les autres.
J'avais l'impression, au début d'émission, qu'on parlait d'autres personnes. Alors, si je peux me permettre, quand on utilise l'argument... l'argument olfactif, donc nauséabond, ou encore des idées sulfureuses, tout ce vocabulaire qui cherche à dire globalement... c'est que c'est une forme de politique polémique qui consiste non pas à critiquer sévèrement, de manière musclée, un adversaire, mais à le délégitimer. Et je crois que l'enjeu, il est là, fondamentalement.
Excusez-moi, mais vous faites la même chose.
Je ne crois pas.
Laurent Geoffrin.
Vous expliquez dans le livre que les progressistes en général, dont là vous faites une définition complètement louche, à mon avis, mais enfin bref, les progressistes sont pour la dissolution des nations. Mais vous avez vu ça jouer où? Je comprends pas. Les progressistes français dont je suis, on n'a jamais dit qu'il fallait dissoudre les nations. On n'a jamais dit qu'il fallait détruire l'identité française. Moi, vous présentez comme conservateur, mais alors, moi aussi, je suis conservateur. Moi, je suis pour conserver, oui, le manteau de cathédrale européen, le musée de tel ou tel musée, le château de Versailles.
Quand on parle de l'histoire mondiale de la France, par exemple, qui a eu quand même un bel écho.
Mais je suis en désaccord avec eux.
Mais d'accord, mais là, moi, je ne parle pas de vous. Vous me le pardonnerez. Mon livre s'appelle pas l'Anti-Geoffrin.
J'ai compris. C'est là que c'est moi qui suis là.
Mais dans ce livre, permettez-moi de parler d'autre chose que de vous, malheureusement.
C'est dommage.
Je comprends, j'ai ce sentiment aussi. Dans le livre « L'histoire mondiale de la France », toute forme de définition substantielle de l'identité française
Il y a un débat sur l'histoire
est ramenée sur la forme de la tentation du repli nostalgique, réactionnaire.
Oui, mais je vous répondrai.
Je donne un autre exemple. Emmanuel Macron, en politique cette fois, nous dit qu'il y a deux camps. Il y a les progressistes et les populistes lépreux. Quand on a ce vocabulaire-là, est-ce qu'on comprend bien que, et on ramène ça par ailleurs toujours avec le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on comprend bien que si on partage ainsi l'espace politique, ce n'est plus un débat entre adversaires légitimes, j'y reviens, mais c'est entre le bien et le mal. On reconduit dans un monde qui n'est plus du tout le même le combat de l'antifascisme. Et j'ai l'impression que c'est non seulement anachronique, mais ça consiste en dernière instance à expulser du corps civique bien des électeurs et des individus qui ne sont pas particulièrement fascistes, mais attachés au fait national, tout simplement, par exemple.
Alors, Laurent Geoffrin.
Je sais pas mon vocabulaire, mais je
mais c'est quand même celui du président de la République.
J'assume le fait de désigner un camp populisto-nationaliste. Oui, bien sûr, ça existe. Et quand Monsieur Orban porte atteinte à l'indépendance de la justice, je considère que c'est contraire à la culture démocratique. Oui, bien sûr. Et quand Monsieur Salvini, alors il l'a pas vraiment fait, mais enfin quand il annonce qu'il va virer tous les immigrés à manu militari, je suis contre. Je trouve que c'est contraire à la philosophie des droits de l'homme qui est ma boussole en cette matière. Et je constate, je répète que quand vous accusez les progressistes de vouloir faire table rase, vous dites ça. C'est l'idéologie de la table rase. Mmh. Hein, bon, c'est un verbe international. L'international est un peu désuet maintenant. Et c'est complètement diffamatoire. C'est pas vrai. On n'est pas là pour faire la table rase de la tradition et de l'héritage. Au contraire. On assume l'histoire de France. Mais on ne parle pas de la même. C'est ça le problème. Attendez, je termine. Vous parlez de la tradition traditionnelle, qui est votre idée. C'est la vôtre. Hein. Moi, je parle de toutes les traditions. Par exemple, la tradition de la sécurité sociale, c'est un héritage. La tradition du Front populaire, c'est un héritage. La Commune, la Révolution française, tout ça, c'est la tradition. C'est ce qu'il faut conserver.
Je pense que là-dessus, nous serons d'accord, mais je ne suis pas sûr que l'histoire mondiale de la France vise à garder les traditions.
C'est un contrepoint. L'histoire mondiale de la France a une histoire qui a été enseignée pendant des décennies et qui est mensongère, qui est celle du roman nationaliste consistant à dire que la France existe depuis les Gaulois et que constamment elle s'est...
Mais elle répond...
On sait bien que c'est historiquement faux
et que ça ne correspond
pas à la réalité. Voilà.
Elle répond à un roman national par la fable du métissage de tous les temps, du métissage originel. Donc répondre à un mythe par une fable, je ne suis pas sûr que ce soit un progrès.
Mais il y a eu du métissage.
Les grottes de Chauvet. C'était ça. Ça commence là. Mais je voudrais en venir là. Il y a effectivement la criminalisation de l'adversaire qui peut être un problème, surtout quand on ne parle sans cesse du retour des années 30 ou aux années 30. Mais il y a un autre problème, celui que je soulignais en parlant de Daniel Lindenberg, parce que il y a un chapitre qui s'intitule « When Jews Turn Right ». Il dit que certains intellectuels, issus souvent de l'extrême-gauche, se sont fait les porte-parole de la communauté juive, dénonçant avec une assurance qui ne laisse guère de place au doute ou à la contradiction, une vague d'antisémitisme dont la réalité en tant que telle reste pourtant sujette à caution. C'était en 2002, c'est republié en 2016 avec ce bandeau « L'essai prémonitoire » et cet essai est présenté comme prémonitoire par Pierre Rosanvallon dans son livre sur l'histoire intellectuelle et politique de la France, livre qui ne fait aucune référence aux attentats du 7, 8 et 9 janvier, à la manifestation d'Urgie, ni même aux attentats du 11 septembre, comme si ces attentats n'avaient aucun impact sur la vie intellectuelle et politique. Mais pourquoi je dis cela? C'est-à-dire que il y a effectivement une tentation du déni. du déni de réalité, et avec les meilleures intentions. Il ne faut pas stigmatiser. Donc l'antisémitisme traditionnel, l'antisémitisme français, il ne s'agit pas de stigmatiser, c'est un réflexe d'autodéfense tout à fait légitime contre une mauvaise tradition française. Mais quand il s'agit de l'antisémitisme dans les banlieues, eh bien là, on risque effectivement de mettre en péril des jeunes gens déjà en déshérence. Donc on n'en parle pas. Quand Georges Bensoussan publie les territoires perdus de la République, silence dans la presse justement progressiste. Il n'a pas eu beaucoup de chance non plus avec son livre « Une France soumise ». Maintenant, on en parle, bien sûr, mais très tardivement, parce que, justement, dès lors qu'on a une vision du monde dans les termes de l'antiracisme, tout ce qui fait échec à cette vision, on est tenté de l'écarter. On préfère le maintien de son système à une réalité effectivement très dérangeante. Et c'est ça, moi, qui me pose un problème et qui suscite mon inquiétude, sans que pour autant, Laurent Geoffrin, je me prenne pour une victime, puisque effectivement, je peux m'exprimer, pas tout à fait là où je veux, mais quand je veux. Laurent Geoffrin.
Il y a des conformismes de gauche, il y a des évitements des questions sensibles, c'est vrai, bien sûr. Je l'ai vécu toute ma vie, pratiquement. C'est vrai qu'à Libération, on avait du mal à parler, par exemple, à l'époque, c'était sur la délinquance, on avait du mal à dire que c'était quand même dans les banlieues que ça se passait. Parce qu'on aurait eu l'air de suggérer que c'était lié à l'origine ethnique des gens qui y habitent. Mais il faut aussi être précis là-dessus. C'est que souvent, la délinquance n'est pas seulement liée à l'ethnie, ou elle n'est pas liée à l'ethnie, elle est liée à la condition sociale, à la condition, à l'inégalité sociale, plus qu'à l'origine ethnique. Donc là aussi, le politiquement correct peut être utile quand même, parce que ça vous permet d'éviter d'accuser les Arabes d'être des criminels uniquement parce que c'est des Arabes ou des musulmans. C'est parce que ça existe beaucoup, ça. Dans le discours public, on l'entend tout le temps, ça. C'est même presque majoritaire. Quand on parle de la difficulté des banlieues, c'est imputé immédiatement à la minorité arabe et la minorité musulmane, alors qu'il faut être beaucoup plus nuancé, précis et précautionneux dans cette affaire. Et c'est pour ça que la sonnette d'alarme du politiquement correct, le bon à mon sens, est utile.
Mais Mathieu Bocoté, oui, vous serez d'accord avec moi que la précaution ne doit pas aller jusqu'à la cécité.
Non, c'est bien sûr. Mathieu Bocoté. C'est vrai que la gauche a été aveugle dans certains points. Jospin avait reconnu lui-même, mais il avait été reproché.
Mais si je peux me permettre, le déni de réel, je crois, il fait partie de la logique du politiquement correct. Je donne quelques petits exemples. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer en d'autres lieux, mais Cologne, me semble-t-il. Lorsque les agressions sexuelles massives de Cologne arrivent, ça prend quand même plusieurs jours, parce que pour éviter de stigmatiser, pour éviter de faire le jeu de l'extrême droite, formule rituelle s'il en est une, on se dit il faut pas en parler. La chapelle Pajol, quelques temps plus tard, quelques années plus tard en fait, autour de quand une présence, vous rappelez-vous dans les médias, on va nous dire il y a une présence soudaine et massive d'hommes dans le quartier qui rendent le quartier dangereux pour les femmes. Des hommes. Et là, on refuse de les nommer. Or, dans les circonstances, c'est pas une arrivée massive d'hommes indéterminés. Les hommes portent aussi une culture. Et on sait ce qu'étaient les migrants qui arrivaient. Ou tout récemment, l'agression odieuse de la jeune trans Julia. Alors, on le voit, tous ceux qui l'agressent portent sur eux le drapeau algérien. Alors, et là, il ne fallait pas le mentionner ou mentionner le drapeau algérien à condition de dire que ça ne voulait rien dire. Mais soyons sérieux, s'il avait été agressé à la sortie d'une rencontre de la Manif pour tous, il y aurait eu le lendemain un appel à la manifestation contre l'homophobie ancestrale de la France. Alors, en ces matières, me semble-t-il, tout ce qui peut remettre en question, le grand récit de la diversité heureuse, on a tendance à vouloir le laisser de côté ou à le traiter comme des faits divers, des anecdotes qui n'ont pas de portée politique.
Ce que vous décrivez là, ça s'appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a tendance à éliminer.
Mais ça arrive souvent.
Mais c'est dans tous les partis. Je vous assure que c'est dans tous les partis.
On peut toujours le dire.
Si vous dites à quelqu'un du Front National, vous savez, l'immigration, ça a parfois des avantages. Alors là, il vous dit tombe de sa chaise, le type. Mais quoi ? Comment pouvez-vous dire ça alors qu'il y a le terrorisme, machin, etc. Et c'est exactement le même mécanisme. On va éliminer.
Ce dont on parle en ce moment, c'est quand même les grands médias.
C'est pas marginal.
Un instant. Heureusement, ça demeure quand même néanmoins dans. On pourrait dire c'est la figure qui n'est pas acceptée dans le débat public légitime.
Marine Le Pen est censurée.
Quand on revient au grand journal.
Non, elle n'est pas censurée, Marine.
Non, je ne voudrais pas qu'elle est censurée. je dis qu'elle n'est pas, elle n'est pas admise parce que j'en sais comme
selon
républicaine
elle,
elle légitime.
Elle n'est pas légitime selon ses adversaires.
Un instant. Voilà, c'est tout. Mais elle n'est pas admise comme une républicaine légitime parce que j'en sais. La question n'est pas là pour moi.
Non, elle n'est pas très républicaine.
Non, la question n'est pas, la question n'est pas là pour moi. La question est les faits que je vous ai donnés, me semble-t-il, et ça tend à se multiplier. Lorsqu'un fait vient invalider de manière significative le récit de la diversité heureuse, on tend à le traiter comme un fait anecdotique sans portée politique. Or, me semble-t-il, qu'il faut être capable de nommer le réel, non pas pour stigmatiser, mais pour vous, pour reprendre une formule qui est désormais généralisée, pour voir ce que l'on voit, nommer les choses telles qu'elles sont. Oui. Et je suis persuadé, paradoxalement, que ce déni de réel contribue à ce que vous appelleriez la révolte populiste, parce que cette colère populaire devant le déni de réalité doit s'exprimer un jour d'une manière ou de l'autre. Et on pourrait même se transporter de l'autre côté de l'Atlantique un instant. Un des grands carburants un des carburants idéologiques les plus forts de Donald Trump, c'était la révolte contre le politiquement correct. L'exaspération devant les discours larmoyants, les discours qui sont toujours dans la disqualification, dans ce cas-là, d'une partie de la population américaine, devant le politiquement correct, la diversité obligatoire, Hollywood et compagnie. Le commun des mortels, finalement, s'est tourné vers un homme, une figure histrionique, une figure explosive, mais qui devenait le symbole par lequel on se révoltait contre le politiquement correct. Rappelez-vous comment Hillary Clinton avait présenté les électeurs de Donald Trump. Basket of deplorables. Quand on est occupé non seulement à critiquer le candidat, mais à critiquer les électeurs, on fabrique une révolte ensuite assez brutale.
C'est ce que dit d'ailleurs Marc Lilla dans son livre sur la gauche des identités, en préconisant, est un universitaire de gauche. Un universitaire de gauche américain.
Une forme de Laurent Bouvet américain.
Et les progressistes ne sont pas toujours
d'accord entre eux. Oui, et il dit qu'il faut retrouver le sens de la nation.
Mais le déni de réel, moi je le vois aussi. Chez les conservateurs et chez les réactionnaires. La majorité des gens issus de l'immigration s'intègrent en France, immédiatement on vous tombe dessus. Vous dites, mais qu'est-ce que vous racontez, c'est idiot. Regardez l'émeute, regardez la mosquée, le machin, etc. Or, c'est vrai. Le problème, c'est quand vous regardez bien sérieusement la société française, faire œuvre de sociologie réelle, vous vous apercevez qu'effectivement, la majorité des musulmans, d'abord, ils sont assez peu pratiquants, mais ils sont pas beaucoup.
Donc,
plus... ils sont pas beaucoup. Alors, on va me répondre. Donc, vous trouvez que tout va bien? Mais non, je ne trouve pas que tout va bien et qu'il y a des problèmes énormes. Mais c'est une réalité que dans les journaux de droite ou d'extrême droite, on met de côté. De même qu'on va vous parler du grand remplacement. Je constate que les responsables musulmans qui sont dans l'establishment ne parlent pas en tant que musulmans. Ils sont intégrés. Et donc toutes ces réalités-là sont niées par le politiquement correct de droite qui existe aussi.
Bon, très bien. Ben, nous terminons là-dessus. J'avais une multitude de questions à poser. Je n'ai pas pu le faire. C'est parce que le débat était très intense. Je vous en remercie tous les deux. Mathieu Bock-Côté, je rappelle le titre de votre livre, L'Empire du politiquement correct aux éditions du CERF. La semaine prochaine, l'émission a pour titre Travaux manuels. Mes invités seront Arthur Lockman et Joseph Pontus. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Ochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.